À voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Zoé Sfèze rencontre Jérôme Clément. Ce soir, 1968-1981, Rêver la gauche.
Jérôme Clément, bonjour.
Bonjour.
On continue avec vous cette exploration de votre parcours. Alors après cette enfance à la fois choyée et un peu trouble, vous vous lancez dans des études, vous l'avez dit, l'école c'est très important dans cette famille, des études assez prestigieuses. Et puis naît chez vous un engagement politique qui va être très fort, qui va conditionner le reste de votre vie. Et vous avez écrit dans votre premier livre « Un homme en quête de vertu ». Finalement, chez vous, il y avait assez peu de culture politique dans cette famille. Vous aviez choisi la culture et l'action, peut-être même contre l'ambiance feutrée de la pharmacie de votre mère.
Oui, enfin, c'est-à-dire que mes grands-parents paternels, c'était plutôt à droite. C'était un milieu assez conservateur, enfin très traditionnel, la petite bourgeoisie catholique, bretonne pour ma grand-mère. Bon, même si mon grand-père avait une fibre... On dirait plutôt paternaliste, quoi. Il était très attaché aux ouvriers de son entreprise, etc. Mais voilà, on peut pas dire qu'il y avait, aucun engagement du tout. Ça, c'était pas du tout le sujet. Mais je crois que ce qui a compté, c'est l'environnement politique. Parce que moi, ma prise de conscience, elle venait de ce qui se passait dans le pays quand j'étais lycéen. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, moi j'avais 15 ans en 1961, c'était le moment des attentats OAS, j'étais au lycée Louis-le-Grand, voilà, ça canardait sec dans les rues, quoi. Il y avait des attentats, et puis il y avait des prises d'opposition, les syndicats étudiants étaient très puissants. Moi j'étais lycéen, donc j'étais pas encore, et quand même avec mes copains de classe, on parlait beaucoup de ce qui se passait, quoi. Beaucoup plus que chez moi, ça c'est sûr. Mais une partie de ma vie, compte tenu de certaines difficultés familiales dont on a parlé hier, elle se passait avec mes copains au lycée. Et c'est ça qui m'a conduit à m'engager. Mon premier geste politique, j'ai gardé les petits papillons qu'on collait sur les portes et sur les réverbères dans le quartier latin. C'était non à la guerre d'Algérie 61. Donc déjà, je collais des petites affiches, j'avais 15 ans, mais je collais des vignettes un peu partout. Voilà, on était absolument contre l'Algérie française, contre le colonialisme, on s'enflammait. Bon, pourquoi est-ce que j'ai basculé de ce côté-là et pas d'un autre? Je sais pas, il faudrait... c'est peut-être un peu le hasard aussi, mais peut-être mes origines m'ont conduit à ça. Origine d'une famille d'immigrés, finalement, enfin partie par ma mère. Mais ça me paraissait évident. Je me suis jamais. J'avais aussi un très bon copain, des copains qui étaient au Parti communiste et qui étaient très engagés. Ça, j'ai jamais adhéré au Parti communiste. Mais enfin, je trouvais ça bien d'être militant.
C'est ça. Votre sœur aussi, mine de rien, elle aussi s'est engagée politiquement. Vous en parliez à l'époque ou pas?
Oui.
En dépit de cette différence d'âge.
Bah, pas trop à ce moment-là, parce qu'on s'est retrouvés après, mais à cette époque-là, pas trop. Catherine, elle passait des examens, des études, des concours, on parlait pas trop. Mais elle avait quand même toute une bande d'amis, ensuite quand elle est rentrée à Sèvres, à Normale Sup, bon, qui étaient tous aussi engagés, donc forcément c'est des sujets dont on parlait, mais... Moi, j'étais pas. J'avais mon propre chemin avec mes copains. Ça s'est plutôt passé comme ça. Et par l'environnement extérieur, qui était assez remuant, les années 60, 62, 63, la guerre d'Algérie, ça, c'était quand même un choc majeur. Il y avait en plus tous ceux qui partaient. Et nous, ça s'approchait. On se disait, est-ce qu'on partira nous aussi faire la guerre d'Algérie? On se posait la question, qu'est-ce qui se passe si on doit partir comme soldat? Faut faire son service militaire, parce qu'à l'époque, il y avait un service militaire très long, hein, c'était 2 ans. Voilà, c'est des questions qu'on se posait.
Est-ce qu'on sera obligé, nous aussi, d'y participer?
Est-ce qu'on sera obligé d'y participer? Et on voulait pas. On voyait pas pourquoi on irait défendre. Voilà, donc ça donnait lieu à des discussions enflammées.
Alors après, vous faites Hippocagne, vous, continuation de ce parcours assez brillant, où vous avez là aussi des copains et vous avez un ami. Vous rencontrez là-bas plusieurs amis qui vont vous suivre toute votre vie, dont des personnalités... dont vous resterez proche, même si elles ont des trajectoires très différentes des vôtres, ensuite.
Oui, bon, c'est Alain Juppé, là, en disant ça, oui. Bah oui, on s'est connus en Hippocagne, on avait, je sais pas, 17 ans, 18 ans, c'était en 63, 62, dans ces années-là. Bon, évidemment, on était très jeunes, mais Là, on parlait pas trop politique, je veux dire, parce qu'en Hippocagne, on avait beaucoup de travail et on était extrêmement passionné par ce qu'on faisait. On avait de très bons professeurs. Professeur d'histoire qui s'appelait Genet, on avait la garde des Michards, on avait des professeurs de philosophie aussi qui étaient très intéressants, on avait beaucoup de travail, donc on était plongé dans le boulot. Donc on parlait pas trop de politique dans cette année-là, en tout cas. Enfin, voilà, on avait des différences, justement, sur la guerre d'Algérie. Alain Juppé ne faisait pas partie de ceux qui étaient dans les contestataires, c'était pas son engagement du tout. Moi j'étais pas non plus très engagé, faut bien reconnaître ce qu'il y a. J'étais plutôt, ça va vous faire rire, mais en fait, je passais beaucoup de temps à jouer au bridge à cette époque, et j'avais un copain en Hippocagne qui s'appelait Paul Chemla, qui est devenu un joueur de bridge professionnel, qui est devenu d'ailleurs un des meilleurs paires de bridge mondial. Et je passais beaucoup de soirées, de week-ends et de nuits à faire des tournois de bridge et à jouer au bridge. Donc, vous voyez, ça n'avait rien à voir avec l'engagement politique, ni avec les copains. Mais enfin, j'ai fait des rencontres, effectivement, assez fortes dans cette année-là, parce que c'était un milieu où il y avait des gens qui venaient de tous les horizons, beaucoup plus que maintenant, provincial, social, c'était assez mélangé, mais avec des gens en général assez brillants, quoi. Donc j'étais pas de loin le brillant dans cette classe. Il y en avait beaucoup qui étaient devant moi, et la plupart d'ailleurs.
Alors après, vous avez fait Sciences Po. Vous avez écrit que vous vous êtes posé la question, par exemple, de faire HEC. Vous auriez pu faire du commerce, comme votre mère. Et puis finalement, vous dites, je trouvais que l'argent, ça ne méritait pas qu'on en fasse un métier.
Ah oui, j'ai dit ça.
Vous avez dit ça.
Ah ben, je me souviens plus avoir dit ça, mais enfin c'est vrai d'ailleurs, je le pense aujourd'hui encore plus qu'hier peut-être. Sans doute je le soupçonnais à l'époque, mais oui, ce qui m'intéressait c'était... Ben, il faut dire que dans ces années-là, on se posait pas la question du travail, quoi. Il était évident qu'on aurait un emploi. La question n'était pas de savoir si on serait, je sais pas moi, architecte, médecin, si on était scientifique ou littéraire, mais la question se posait pas de savoir... si on devait gagner de l'argent ou pas, parce que de toute façon, on en gagnerait. Donc, c'était pas une préoccupation majeure. Et moi, j'étais pas attiré par l'accumulation. J'aurais pu faire comme mon grand-père, qui avait créé sa propre entreprise. Mais curieusement, alors que c'était plutôt... Moi, je suis pas du tout d'un milieu de fonctionnaires ou de serviteurs de l'État, comme on disait, mais plutôt d'un milieu d'entrepreneurs. Chimiste, et ma mère était pharmacien, c'était le commerce. Donc, c'était pas du tout le... La voie que j'ai choisie n'était pas une voie familiale. J'ai fait Sciences Po parce que ça m'intéressait. Je pense que la politique m'intéressait, l'histoire m'intéressait, le monde m'intéressait, et je cherchais des ouvertures. Il y avait une curiosité, je crois qu'il m'a jamais quitté, une curiosité qui faisait que j'avais envie d'apprendre, de voir. Et on m'avait dit, ben, Sciences Po c'est bien, mais c'est pas mes parents qui savaient pas très bien ce que c'était. C'était plutôt là aussi les copains de ma sœur qui m'avaient dit tu devrais faire Sciences Po, ça va t'apprendre des tas de choses. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait du droit aussi. Bon, j'ai fait du droit parce que on m'avait dit c'est bien de connaître le droit, donc ça se faisait assez facilement. Donc, et puis des lettres, enfin aussi dans la poursuite de l'Hippocagne. Ça m'intéressait beaucoup. La littérature m'intéressait énormément. Le droit m'intéressait beaucoup parce que c'était une façon de mettre en cadre précis l'organisation de la société. Donc ça, je trouvais ça intéressant, ce que représentait le droit. J'ai beaucoup accroché à ces études. Et à Sciences Po, j'ai fait comme tout le monde, quoi. J'ai suivi le mouvement des idées politiques et de ce qu'on apprenait à l'époque. Et puis une fois qu'on est à Sciences Po, on est pris dans un autre univers, alors qui socialement, surtout à l'époque, était beaucoup plus bourgeois que le mien, que mes origines. Mais bon, c'était aussi assez mélangé, donc je me suis senti assez à l'aise à Sciences Po. Mais l'engagement politique et syndical était plus fort. Au fur et à mesure que les années passaient, ça se rapprochait.
Puis il y a eu mai 68 quand même au milieu de tout ça. Voilà. Vous aviez donc 23 ans. Vous l'avez vécu où ? Concrètement, est-ce que vous étiez dans la rue ? Pas nécessairement.
Alors en fait, non, parce que... Toutes ces années-là, je m'étais rapproché du syndicalisme étudiant et j'avais peu à peu précisé mes engagements politiques à gauche, au PSU, dans cet univers. Mais il se trouve que en 67, j'avais présenté le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, j'avais été battu et j'avais eu aussi un grand chagrin d'amour qui m'avait fait quitter Paris et j'étais parti aux États-Unis passé l'hiver aux États-Unis. J'ai passé 3 mois à New York à faire des petits boulots pour voir autre chose et pour sortir de France. Quoi. J'ai toujours aimé ces échappées. Et je suis rentré à Paris en mars 68. À l'époque où ça commençait à bouger, le mouvement du 22 mars.
Bon timing,
voilà. Et donc j'ai assisté assez sidéré à tout ce qui se passait au Quartier Latin, à Sciences Po et à la fac où j'étais retourné. Et j'ai suivi mai 68, non pas du tout comme acteur, parce que j'avais aucun rôle. Je débarquais des États-Unis, mais comme spectateur attentif, disons. Je passais évidemment mon temps à l'Odéon, à écouter ce qui se racontait dans les rues du Quartier Latin, à la Sorbonne. Enfin voilà, j'étais impliqué, mais je peux pas dire que j'ai été actif. J'ai plutôt été curieux, attentif. Je croyais pas beaucoup que ça marcherait. J'étais pas convaincu que c'était la bonne façon de faire. Mais c'était fascinant. J'étais absolument emporté par le mouvement et évidemment j'y ai participé. Je me souviens très bien de la rue Gay-Lussac, complètement dépavée. J'étais avec mon cousin, un de mes cousins qui était aussi à Normalsup, biologiste, qui habitait à rue d'Ulm. Mais alors, on était sidérés, quoi. On marchait dans des rues qui étaient complètement dévastées, des arbres coupés, des grilles arrachées. On n'en revenait pas, quoi. Donc, j'étais complètement fasciné par ce qui se passait. Je cherchais à comprendre et à suivre.
Et alors après mai 68, assez vite après, vous avez fini par avoir l'ENA, alors que vous n'y croyiez plus.
C'était en 68, oui.
Voilà.
Jusqu'au mois de mai, juin, j'étais dans le mouvement de mai 68. Et puis à l'été, que le général de Gaulle ait dissous l'Assemblée et qu'il y ait une chambre à droite qui soit revenue, on a compris que la récréation était finie. Quoi, qu'il fallait... Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait soit se remettre au boulot, soit se lancer dans... Bon, moi je me suis dit, bon tiens, je vais recommencer, je vais passer le concours. Donc j'ai passé l'été à préparer le concours et j'ai été reçu. Alors que ça m'intéressait. C'est curieux parce que autant l'année d'avant j'avais très envie d'être reçu, autant cette fois-là j'avais d'autres projets en tête, mais je l'ai passé comme ça pour dans la lancée. Et finalement, le fait d'être assez détaché par rapport à tout ça m'a fait que j'ai réussi. Et donc j'ai été reçu en 68, à l'automne 68, et je suis rentré à l'École nationale d'administration.
Et on dirait que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est un peu à l'ENA que vous commencez à découvrir une fibre un peu rebelle en vous, si je ne m'abuse. À l'ENA où vous entrez et où, assez vite, il faut choisir des noms de promotion. Je crois qu'il y a eu un petit compas autour de ça. Et le général de Gaulle est mort et vos camarades ont souhaité que, du coup, la promotion s'appelle la promotion Charles de Gaulle. Et là, vous entrez en rébellion.
Oui. Ben oui, là, c'est là d'ailleurs ce qui était amusant, c'est que j'ai retrouvé Juppé qui était, lui, rentré la même année que moi à l'ENA, et qui était, lui, alors devenu franchement gaulliste, plutôt conservateur, et moi j'avais suivi le chemin inverse. Et avec quelques amis qui sont restés des amis très proches, dont Louis Gallois en particulier, on considérait que il fallait porter la contestation au sein de l'école. On avait quand même gardé cet esprit 68ard. Et donc, en 70, il y avait deux événements qui s'étaient produits. Un, c'était le centenaire de la Commune de Paris. Et deux, c'était un an après la mort du général de Gaulle. Donc, la moitié de la promotion voulait s'appeler Charles de Gaulle et l'autre moitié voulait s'appeler Commune de Paris. Et évidemment, moi, j'étais du côté... Deux visions du monde. Donc, moi, j'étais à fond pour Commune de Paris. Et donc, on s'est retrouvés, je crois que c'était à fond Romeu, où on devait discuter du choix du nom. On a voté. Et je crois que, il me semble me souvenir que Charles de Gaulle est passé à une voix près. Donc on était complètement divisés et effectivement il y avait des gens comme Juppé qui étaient sur Charles de Gaulle et nous on était sur Commune de Paris. Ça ne nous empêchait pas de bien nous entendre, hein. Ça ne créait pas de clivage absolument irréductible. Mais c'est l'époque où ça bougeait beaucoup quand même dans nos têtes d'abord et on avait envie de s'engager. Donc c'était l'époque où je suis rentré à la CFDT. Au syndicat de fonctionnaires, et j'ai représenté les élèves au conseil d'administration de l'ENA comme représentant de la CFDT, ce qui n'était jamais arrivé. Donc je me suis retrouvé dans ce cénacle très bien pensant, celui du conseil d'administration, où j'étais l'élève contestataire. Voilà. Alors évidemment, ça plaisait pas beaucoup. C'était Pierre Racine qui était le directeur de l'école, qui était bienveillant, mais enfin quand même, il se méfiait de ça. Il y avait... un directeur général de la fonction publique, Massenet, qui était lui aussi très très à droite et qui, voilà, il me, je dirais pas qu'il me menaçait, mais enfin, il me faisait la leçon en me disant que ça c'était bien gentil, mais qu'on était en train de scier la branche sur laquelle on était assis et que, voilà, il fallait arrêter avec toutes ces bêtises, quoi. En gros, il fallait qu'on rentre dans le rang. Moi, j'ai jamais aimé rentrer dans le rang, pas plus aujourd'hui qu'hier. Donc, j'aime bien dire ce que je pense et je crains pas d'affirmer mes idées, mes opinions. Ça me gêne pas du tout. Au contraire, je le revendique hautement, aujourd'hui comme hier. Mais voilà, donc à l'époque, je l'ai fait et j'ai résisté aux pressions et j'ai défendu mes idées au conseil d'administration de l'école et avec d'autres, dont Louis Gallois, Jean-Cyril Spinetta, Christian Pierret, on s'est engagé aussi dans un refus de rentrer dans les grands corps, qui a été, évidemment, à l'époque, a fait du bruit. Enfin, quand on voit ce qui s'est devenu, c'est un peu dérisoire maintenant, mais à l'époque, c'était important pour nous.
Et vous avez refusé de rentrer dans les grands corps, vous êtes allé justement faire de la culture, ce qui n'était pas attendu, mais au-delà de ça, vous en gardez quoi comme souvenir de ce passage à l'ENA? Parce que vous dites dans certains de vos livres que vous avez été frappé par le caractère élitiste et cette idée qu'il faut être dans le rang, et vous dites que c'est un des échecs de la gauche peut-être de ne pas avoir réussi à transformer ça à l'ENA.
Oui, j'ai pas gardé un souvenir extraordinaire de ces années de scolarité à l'ENA. D'ailleurs, je me suis jamais vraiment senti énarque. Bon, je suis très content d'avoir fait cette école parce que ça m'a ouvert des tas de portes et ça m'a permis de faire des choses intéressantes. Mais je peux pas dire que la scolarité m'ait laissé. Ce qui me plaisait plus, c'est qu'on avait un groupe de travail avec quelques amis qui sont restés toute ma vie, on n'avait pas forcément les mêmes idées. Je pense en particulier à Jean-Paul Cluzel, à Alain Juppé, à Louis Gallois, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça ne nous empêchait pas de travailler ensemble et on s'amusait bien, on s'entendait bien et ça c'était sympathique. Mais on était quand même très engagés dans le militantisme syndical pour moi, à la CFDT. Et puis certains commençaient à s'intéresser à ce qui se passait à gauche. À l'époque, la création après le congrès d'Épinay, la création du Parti Socialiste. Et moi, j'avais rencontré à l'époque Jean-Pierre Chevènement, qui avait créé le CERES. Et Jean-Pierre Chevènement, je l'avais connu quand j'étais à Sciences Po, et il m'avait aidé à préparer l'ENA, avec quelques copains à lui, dont Didier Mochan, Gomez, Jean-Pierre Guillard, enfin, il y avait un certain nombre de gens, voilà. Et ça m'avait beaucoup plu. Moi, ça me plaisait beaucoup. Alors là, je dois dire que j'avais d'un côté le biais syndical, et de l'autre côté, ce qui se passait au CERES, qui était une rénovation de la gauche de l'intérieur et je participais au colloque du CRS, aux réflexions de Chevènement et ça m'intéressait.
Et alors justement, entre votre sortie de l'ENA et l'arrivée au pouvoir de la gauche, il y a quand même eu 10 ans, 10, 12 ans, où vous travaillez pour l'État et où vous militez, vous assistez à cette montée en puissance du Parti Socialiste. Vous les lisez comment ces 10 années du point de vue politique?
Je vous l'ai dit, j'ai d'abord commencé sur le plan syndical. Mais après, ce qui a été déterminant pour moi, c'est la signature du programme commun. C'est-à-dire que quand le Parti communiste et le Parti socialiste ont signé un accord, là j'ai compris qu'on passait aux choses sérieuses. Et j'avais quelques amis avec qui j'avais des discussions passionnées sur ce qu'on allait faire plus tard, en particulier Laurent Fabius, qui était un de mes meilleurs amis, qui l'est resté, et qu'on s'est connu dans les années 67, 68, et on discutait sans arrêt, quoi, de ce qu'on allait faire, ce qu'il fallait. Et moi, j'étais convaincu que, il fallait s'engager là-dedans. Enfin, à l'époque, évidemment, personne ne pouvait penser que la gauche viendrait au pouvoir.
C'est ça, parce que c'était en 73, 74. C'était surréel. On pouvait se dire que c'était surréel. Et puis, il y a eu l'aventure du Chili, quand même.
Oui, c'est-à-dire que ça a été des années où, avec quelques amis, justement, je me souviens, avec Louis Gallois, avec Pierret, avec Laurent Fabius, tout ça, on était, on se disait, je me souviens de discussion, justement, que j'avais avec Fabius, c'est moi qui l'ai conduit vers le Parti Socialiste en disant c'est là que ça se passe, quoi, l'histoire est en train de passer là. Et puis il y a eu des événements considérables, quoi. Pour moi, le 11 septembre 73, la chute d'Allende, le coup d'État de Pinochet, c'était un traumatisme majeur, quoi. Le 11 septembre aujourd'hui, pour moi, c'est pas 2001, c'est 73. Et puis c'est ce qui s'est passé aussi avec la révolution des œillets au Portugal. On voyait quand même que partout ça bougeait et qu'il y avait un mouvement en Amérique latine. On était au Vietnam, on était quand même très internationaliste. on voyait partout dans le monde se développer un certain nombre de mouvements de gauche qui protestaient contre les dictatures des colonels, la fin de la dictature des colonels en Grèce aussi après, enfin tout ça faisait que on voulait que ça arrive en France. On trouvait que sous des formes à définir. Moi, j'ai jamais été révolutionnaire. Je croyais que le réformisme serait plus adapté à ce qu'on devait faire. Mais malgré tout, il fallait faire bouger la société. On n'en pouvait plus, quoi. Donc, toutes ces années-là, 72, 73, 74, pour moi, c'était moins l'ENA qui m'intéressait que de faire bouger la société et de la faire bouger dans des mouvements qui s'inscrivaient dans une histoire globale dans laquelle on avait, nous, notre rôle. Dans notre génération, on avait à jouer un rôle, quoi. J'étais convaincu qu'on avait à jouer un rôle pour faire bouger les choses. Et on lisait beaucoup. Donc, moi, je me suis engagé à ce moment-là au Parti Socialiste, j'étais secrétaire de section, puis secrétaire fédéral à Paris. La Fédération de Paris se doublait, tous les mois il y avait des flots d'adhésions, donc on avait un travail de construction d'un instrument de prise du pouvoir qui m'intéressait beaucoup, et aussi d'études théoriques, parce que on travaillait beaucoup au CRS, mais on avait aussi des groupes de travail sur le marxisme, on lisait énormément, évidemment, tout ce qui concernait le Front Populaire et On Blum, enfin on était là-dedans jusqu'au cou. Et de l'autre côté, j'avais mon engagement dans la culture, qui était pour moi indissociable, parce que j'étais convaincu que ce qui se passait dans le champ culturel était indissociable de ce qui se passait dans le champ politique, et je le vivais concrètement. Donc c'était passionnant. Je garde de ces années 72 à 80 des souvenirs absolument formidables.
En 80, après ces 10 ans-là, il y a cette arrivée au pouvoir de la gauche. Vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas en France, vous êtes au Caire.
Ben voilà.
Et vous arrivez en catastrophe à Paris pour faire quelque chose. Vous tournez dans les bureaux. Et puis, il y a cette ambiance assez folle du rapport au pouvoir. Parce que la gauche arrive au pouvoir. On sent qu'il y a quand même une forme de panique chez certains. Et un empressement. Vous dites à l'époque que le pouvoir a été conquis par des jeunes militants qui avaient passé toute la décennie à élaborer des textes. Et voilà, il fallait y aller, quoi.
Bah oui, voilà. C'est-à-dire que moi, oui, alors on pourrait penser d'ailleurs que en vous écoutant, qu'en 68 j'étais aux États-Unis, en 81 j'étais au Caire, enfin j'ai tout raté. Mais en fait, je me suis rattrapé toujours, je suis retombé sur mes pieds. En 81, j'étais parti en Égypte avant parce qu'entre-temps je m'étais marié, j'avais eu 3 enfants, j'avais envie de bouger, je pensais. Je me suis complètement trompé. Giscard d'Estaing serait réélu, ça m'enchantait pas comme perspective. Donc j'avais envie de voir le monde, comme quand j'étais parti aux États-Unis avant. Et voir le monde, j'ai eu une opportunité d'être conseiller culturel en Égypte. Et voilà, donc j'étais parti en Égypte. Et puis, je comprenais, notamment par tous les messages que m'envoyait ma sœur, que c'était en train de basculer. Donc, dès la victoire du 10 mai 81, je suis rentré à Paris. J'ai fait un abandon de poste, j'ai pris l'avion et je suis rentré à Paris. J'étais le 13 mai à Paris. Et là, j'ai repris contact avec tous ceux avec qui j'avais travaillé dans les années avant, que je connaissais bien. Pierre Mauroy, Chevènement, Jacques Attali, enfin, des gens qui à l'époque n'étaient pas grand-chose, mais qui ont pris des responsabilités. Hubert Védrine, qui était un bon copain, qui se retrouvait à l'Élysée. Puis, enfin, voilà, on se connaissait tous, quand même. Fabius, bien sûr, on se connaissait tous. Et je leur ai dit, mais moi, je veux en être, quoi. Je veux faire quelque chose. On n'a pas travaillé pendant toutes ces années. Et finalement, il y avait une demande. Il y avait, moi, j'étais déjà spécialisé dans les questions culturelles. Donc, j'ai eu très vite, je connaissais bien Jacques Lang aussi, que j'avais aidé à venir à Paris pour chercher un endroit où se faire élire en 76. Et voilà, donc Jacques Lang m'a proposé un moment d'être son directeur de cabinet, et puis Pierre Mauroy m'a proposé de rentrer à Matignon avec lui pour s'occuper de la culture, de la communication et des relations culturelles internationales. Bon, évidemment, j'ai dit oui, quoi. Je suis rentré tout de suite, le 23 mai, j'étais à Matignon. Donc je suis rentré, tout ça s'est fait très 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 vite. Hein. Il y a des moments dans la vie où l'histoire s'accélère d'une façon terrible et il faut répondre présent au rendez-vous, faut pas se poser de questions, faut y aller, quoi. Et donc moi c'est ce que j'ai un peu toujours fait, ça m'a pas toujours bien réussi, on pourra en parler à la fin, mais globalement les fois où j'ai eu du culot et j'y suis allé comme ça, au déboté, ça a marché. Et c'est ce que j'ai fait en 81 et ça a marché.
Et c'était quoi l'atmosphère à ce moment-là? Parce que c'est quand même tous des gens qui à la fois sont très militants, mais qui, comme vous, y croit, tout en n'y croyant pas. Vous dites que à ce moment-là, les prédécesseurs dans tous les ministères veulent pas vous donner les clés des dossiers. La droite, il y a quand même une espèce de peur dans le pays. Et puis il y a tous ces gens qui accèdent au pouvoir. Ça révèle des choses belles et des choses moins belles. Vous, vous l'avez vécu comment, cette période-là?
Avec un enthousiasme formidable. Moi, j'étais absolument ravi. Vous vous rendez compte, j'avais 34 ans, 35 ans. Je me retrouvais aux manettes du pouvoir après un changement majeur. La gauche n'avait pas été au pouvoir depuis 23 ans. Je trouvais ça formidable. J'étais absolument... c'est l'occasion unique de ma vie. C'était une chance inouïe. Donc moi, j'avais ce sentiment-là d'être au bon endroit, au bon moment, au bon âge. On ne pouvait pas faire mieux. Je savais pas si ça marcherait. D'ailleurs, quand je suis rentré à Paris, l'ambassadeur avec qui j'étais très ami, Jacques Andréani, m'a dit, mais tu peux pas partir comme ça, t'es conseiller culturel. Je lui ai dit, écoute, je m'en fous. La gauche arrive au pouvoir, en général, ça dure 6 mois. Donc je veux pas rater ces 6 mois-là. Donc je me posais pas la question. Je pensais pas du tout que, j'étais pas du tout sûr que ça marcherait. Mais il y avait une expérience, parce que on pensait aux 6 mois à cause du Front Populaire. Ça avait pas duré longtemps, le Front Populaire. Mais ça a marqué l'histoire. Donc moi, je voulais être dans cette période-là. Donc j'étais totalement enthousiaste. Je me posais pas du tout la question de la carrière, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être présent dans un événement historique et de pouvoir jouer un rôle. J'avais envie de jouer un rôle, quoi, finalement, comme Fabrice à Waterloo, comme tout un tas de jeunes gens qui se disent, il se passe des trucs, faut être là, quoi. Et j'avais la possibilité de l'être à cause de ce que j'avais fait, des choix que j'avais fait avant, politique, professionnel, tout ça. Je suis arrivé en disant, écoutez, voilà, je veux en être. Et on m'a dit, bah, viens. Et voilà, et au boulot. Donc, j'avais pas peur du tout. Je voyais bien que tout le monde était, il y avait des tas d'hostilité, que on nous accueillait mal, qu'il y avait des tas de réticence, que voilà, on criait à la faillite, mais ça m'était complètement égal. Alors, vraiment, ça, moi, ça m'a jamais fait peur, ces situations-là. Au contraire, je trouve ça plutôt excitant.
On en parlera du rôle que vous avez joué demain. À demain, Jérôme Clément.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Jérôme Clément. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son Yvan Turc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.